RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui a la chance cette semaine et jusqu'à la fin de la semaine d'être au Maroc à Agadir, dans cette belle ville au bord de l'océan Atlantique, une ville où se tient un congrès de professeurs de français, professeurs en général du monde arabe. Il y a beaucoup de Marocains car nous sommes au Maroc, mais on trouve aussi des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens, des Libanais, tout le monde arabe à peu près est représenté dans cette réunion qui permet de réfléchir à ce que c'est qu'être professeur et qu'enseigner le français, à trouver ses semblables et à être bien content de trouver des gens qui font le même métier que vous, avec qui on peut échanger bien sûr, et puis bien entendu d'aller aux ateliers et d'aller à toutes les réunions qui sont proposées dans ce congrès où un certain nombre de professeurs partagent leurs expériences en disant j'ai fait ceci, j'ai trouvé cela, j'ai essayé de travailler dans telle direction, j'ai quelques bons tuyaux à vous donner. Donc on vient ici quand on est professeur, qu'on aime son métier et qu'on espère devenir encore meilleur en fréquentant ses semblables. Rendez-vous donc à Agadir, à ce congrès, et j'ai commencé par rencontrer un enseignant qui venait de Beyrouth. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
Venu participer précisément au congrès. Et donc, d'essayer de profiter au maximum de toutes les interventions, de toute, si vous voulez, cette atmosphère, cette ambiance culturelle, pédagogique, amicale entre enseignants français. C'est formidable, n'est-ce pas, de faire la connaissance de personnes, n'est-ce pas, de gens qui sont d'autres nationalités, différentes nationalités, mais avec qui vous sentez qu'il y a toujours, n'est-ce pas, alors, quelque chose de commun.
Ouais, alors. Vous voulez dire qu'au-delà du contenu, de ce qu'on peut apprendre dans ces ateliers, ça compte d'être entre soi et de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous ?
Absolument, absolument, n'est-ce pas ? Et donc, si vous voulez, de faire des amitiés, n'est-ce pas, alors, et de pouvoir échanger. Ensuite, n'est-ce pas, une fois de retour, n'est-ce pas, chacun dans son pays, de continuer, n'est-ce pas, cet échange. Et c'est très enrichissant en plus. Et lorsqu'on parle des valeurs du français, n'est-ce pas, alors, véhiculées par la langue française, à mon avis, l'une des valeurs, c'est ça, n'est-ce pas, c'est l'ouverture.
C'est cette espèce de camaraderie.
De camaraderie, d'ouverture, n'est-ce pas, à l'autre, à autrui.
Ouais. Parce que pour vous, être prof de français, ça fait partie de votre identité, de ce que vous êtes profondément.
Oui, bien sûr. Tout en étant libanais, n'est-ce pas, mon identité, c'est libanaise, n'est-ce pas. Mais le français aussi, ouais, c'est une partie intégrale aussi, n'est-ce pas, lors de mon identité, comme vous l'avez
dit. Et quand vous rencontrez un Algérien qui est prof de français, une Marocaine, oui. un Canadien, vous vous sentez des affinités, vous appartenez au même club d'une certaine façon ?
Tout à fait, n'est-ce pas ? Oui, nous avons la même culture, en fin de compte, je veux dire, française, et l'interculturelle aussi, n'est-ce pas ? Alors, arabe, français, et ça, c'est très enrichissant.
Mais l'interculturelle, c'est pas le même pour tout le monde. Un Libanais comme vous, un Marocain, un Égyptien, un Canadien, un Suisse, un Français n'ont pas la même culture, donc leur rapport à l'interculturel est quand même différent.
Dans le monde arabe, c'est un peu, n'est-ce pas, alors ça se ressemble, tu vois. Mais si vous dites, n'est-ce pas, un Canadien, etc., je pense l'interculturel aussi, c'est international.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une francophonie arabe qui n'est pas exactement la francophonie d'Afrique subsaharienne ou du Québec ou de la France, etc. Est-ce que là, vous vous sentez des affinités avec des gens qui sont syriens, qui sont marocains, qui sont égyptiens ?
Absolument, c'est-à-dire disons, vous voyez, en fait, qu'il y a des particularités à chaque francophonie, mais toujours il y a une tranche commune, n'est-ce pas, à l'heure, qui nous réunissent. Et bien sûr, les affinités avec la francophonie du monde arabe, ça, c'est sûr, bien sûr. Tout à fait.
Merci beaucoup. Alors, ce congrès, à quoi sert-il exactement ? Est-ce qu'il a un fil rouge ? Est-ce qu'il a une thématique, une direction ? Quelques réponses. prononcez-vous d'abord pour vous présenter.
Monsieur le maître Ali, enseignant-chercheur à l'université Bnozor et le coordinateur du congrès, du 4e congrès de la Commission du monde arabe qui se passe du 24 au 28 juillet à Agadir.
Alors, dites-nous en quelques mots, si c'est possible, quel est le fil conducteur de ce congrès? Quelle est la direction générale? À quoi sert-il?
Alors, ce congrès, sa particularité, c'est dans sa diversité. Plusieurs communications, plusieurs tables rondes, plusieurs conférences qui se réunissent autour d'une seule thématique, le français, un projet de vie.
C'est un peu vague quand même, le français, un projet de vie. C'est sûr que vous n'alliez pas mettre le français, un projet de mort. Personne serait venu.
Non, mais apprendre le français, un projet de vie, un projet personnel. Comment tous les intervenants présents ici conçoivent la langue française? Comment ils utilisent la langue française? Quelles relations ces congressistes présents ici ont avec la langue française, quant à l'enseignement-apprentissage, mais quant aussi à l'utilisation dans la vie. On veut que ce congrès soit une ouverture vers la société. C'est pour ça que parmi les intervenants, on a pas mal de gens qui ont réussi grâce à la langue française. Et ce sont des intervenants qui sont venus ici pour raconter leur expérience. La langue française peut être un outil d'ascension sociale dans les pays du Maghreb et notamment au Maroc.
Comme si enseigner le français, ça pouvait être un projet de vie. Non pas simplement parler le français, mais l'enseigner, est-ce que c'est une identité professionnelle particulière? Est-ce que c'est un projet?
Enseigner le français aujourd'hui est un mot qui fait peur.
Pourquoi?
Parce que les choses ont changé. Autrefois, aujourd'hui, comme vous le savez, en France aussi, vous avez le même problème, le métier d'enseignant. On a de moins en moins d'enseignants. Au Maroc, on a de moins en moins d'enseignants de français capables d'enseigner la langue comme il faut, selon une expérience, et qui ont enseigné une langue en dehors de sa culture n'est pas un enseignement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui croient d'abord à la culture de la langue française, mais aussi à la langue française autant que langue d'ouverture et non pas une langue seconde, un outil d'enseignement.
Vous avez l'impression que pour l'instant, on est dans une période de crise de l'enseignement du français?
Oui, c'est la crise de la formation des enseignants.
Il n'y a pas assez d'enseignants bien formés?
Alors, il n'y a pas assez de formateurs, il n'y a pas assez de bons éléments qui veulent faire le métier d'enseignant de français.
Et vous pensez que c'est pour pallier ce manque, ce creux, qu'un congrès comme celui-ci a lieu?
Un congrès comme celui-ci et la table ronde de cet après-midi d'abord, c'est une table ronde autour d'une réflexion particulière. Au Maroc, on commence ce qu'on appelle les licences en éducation. C'est une nouvelle façon pour former. Et déjà, le représentant du ministère ce matin, lors de son discours, a fait allusion à ça. Nous commençons une nouvelle étape quant à la formation des enseignants. Maintenant, ce sont des licences spécifiques pour la formation des enseignants de 3 ans. Avec des prérequis bien définis, un concours écrit et un concours oral dans des universités publiques. Après, il y a 2 ans de formation, une année pour la formation du métier et une année pour le terrain. Voilà. Donc, cette conception, on va la commencer et on pourra l'évaluer d'ici 5 ans.
Bon, rendez-vous dans 5 ans. Merci beaucoup, Adil.
Merci à toi aussi.
Ce congrès se tient dans une très jolie université privée. J'ai rencontré l'un de ses directeurs qui nous en dit un petit peu plus sur le lieu qui accueille le congrès.
Jamel Lachmitt, directeur de l'école Isian Business School, Université internationale d'Agadir.
Et alors dites-moi un petit peu, quelle est cette université que vous dirigez ?
Très bien. Cette université existe pratiquement depuis 30 ans. C'est une université qui englobe 4 écoles supérieures, management, hôtellerie, ingénierie et communication. La particularité, c'est que c'est la première université marocaine privée ayant adopté les méthodes nord-américaines, et plus particulièrement canadiennes.
Qu'est-ce que vous entendez par méthode nord-américaine ?
Alors, ce sont des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Premièrement, c'est une formation axée sur les compétences. Deuxièmement, le développement des qualités chez les étudiants. Troisièmement, l'esprit entrepreneurial. Et l'ouverture sur l'entreprise. Ce sont les 4 piliers de cette pédagogie.
Alors, la question principale que je voudrais vous poser, c'est en quelle langue ont lieu les cours ?
Alors, 70% des cours sont donnés en langue française et 30% en langue anglaise, sachant qu'il y a des formations en management et en ingénierie à 100% anglophone depuis pratiquement 2 ans.
Et ça attire des gens qui viennent d'où à peu près ?
Alors aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 étudiants qui sont issus de 21 pays. Et sur les 21 pays, il y a 18 pays subsahariens francophones. Principalement la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Et ce sont des étudiants qui viennent chercher ici une formation nord-américaine avec un diplôme reconnu par l'État marocain et aussi opter pour notre université comme tremplin pour poursuivre leurs études au Canada, en Angleterre, en France et ailleurs.
Donc c'est une université qui se présente comme nord-américaine ou en tout cas avec un profil nord-américain en français.
Exactement. Et là, c'est important de rappeler l'histoire. Parce qu'il y a 30 ans, la première institution de notre université, c'était la Business School. Elle a été créée avec l'appui de l'Agence canadienne de développement international.
Et vous dites plutôt Business School qu'une école des affaires.
Des affaires. Et cette institution de Business School, école de gestion, a été financée par l'ACDI, par l'Agence canadienne de développement international, et plus particulièrement en collaboration avec les universités québécoises, qui voulaient créer une institution de gestion, mais en langue française. Et c'est la grande particularité, c'est qu'on a voulu importer au Maroc les méthodes nord-américaines, mais que le programme soit donné en langue française. Et c'est pourquoi c'était financé par le gouvernement du Québec. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si on trouve 18 pays subsahariens francophones parmi nos étudiants.
Et les étudiants qui viennent, ils ont le niveau de français qui est tout à fait compatible avec les études qu'ils doivent suivre. Ou parfois, est-ce qu'il y a des sessions de remise à niveau pour la langue ?
C'est l'un des grands défis de ces dernières années. Il y a à peine 10 ans, tous les étudiants qui étaient admis chez nous, ils avaient à peu près le niveau requis pour suivre un programme supérieur de gestion. Depuis 10 ans, le niveau ne cesse de baisser. Et c'est pourquoi il y a un test d'admission qui est basé sur les compétences de base orales et écrites. Et l'étudiant, à partir de là, s'il a A1, il est malheureusement rejeté. S'il a niveau A2, il est admis avec une session préparatoire. Et à partir du niveau B1, il est admis normalement. Chose qui n'existait pas il y a 10 ans.
Alors une dernière question, combien ça coûte tout ça ? Est-ce que les études sont chères ? Est-ce qu'il y a des systèmes de bourses qui permettent à des étudiants qui viennent de milieux moins avantagés de suivre les études ? Comment ça se passe ?
Chaque année, on reçoit à peu près 700 nouveaux étudiants. Et l'étudiant, s'il est issu d'une famille aisée ou classe moyenne, il paye les frais de scolarité normalement, qui s'élèvent à peu près à 4 500 € par année. Et il y a un système de bourses et subventions qui est mis en place depuis plus d'une quinzaine d'années. Et les bourses, elles peuvent être totales, même au niveau hébergement-restauration, ou partielle, c'est-à-dire qui touche uniquement les frais de scolarité. Et sur les subventions, ça peut aller de 100% au niveau des frais de scolarité, 80% jusqu'à 50%. Et bien sûr, quelqu'un qui est excellent, issu d'une famille pauvre ou précaire, c'est la bourse, elle est totale, il peut y avoir même l'hébergement et la restauration qui sont offerts par l'institution.
Et ces bourses sont proposées par le royaume chérifien, par le Maroc ou bien par les pays d'origine des étudiants ?
Les bourses dont je viens de parler, c'est l'université qui les offre. On appelle ça SAFE, c'est subvention d'aide financière aux étudiants.
C'est l'université, c'est donc pas l'État ?
Non, c'est l'université. Maintenant, malheureusement, au niveau Maroc, il n'y a pas de bourse pour les étudiants qui choisissent l'enseignement privé. Ce qui fait un petit peu la contrebalance de cette injustice, c'est que nous avons aujourd'hui 7 pays subsahariens qui offrent des bourses à leurs étudiants pour venir suivre un programme reconnu par l'État marocain. Et à leur tête, on trouve le Mali et le Niger. Le Mali, l'année dernière, il a subventionné 70 étudiants. Bourse complète, restauration, hébergement compris.
Alors, une dernière question. Une fois que vos étudiants ont terminé leurs études et qu'ils ont, dans le meilleur des cas, le diplôme que vous leur proposez, ils vont travailler où, en général ?
Il y a à peu près 7% d'étudiants qui créent leur entreprise. Notre ambition, c'est de les emmener à 15, mais pour le moment, c'est 7. Il y a à peu près 10% qui poursuivent leurs études à l'international. Et le reste, ce sont différentes filières ou différents secteurs dépendamment des spécialités. L'ingénierie, c'est principalement les énergies renouvelables, tout ce qui est logistique, tout ce qui est production. L'école de gestion, c'est principalement le secteur bancaire et le contrôle de gestion et le marketing numérique. L'hôtellerie, par la force des choses, c'est le secteur hôtelier, qui est, parce que nous sommes à Agadir, qui est la plus grande ville balnéaire au Maroc. Et communication droit, c'est beaucoup plus tout ce qui est conseil. Voilà, grosso modo, un petit peu la panoplie des secteurs d'embauche.
Et ils s'établissent où ? Beaucoup restent au Maroc, beaucoup reviennent dans leur pays d'origine, d'autres vont tenter leur chance ailleurs en Afrique ou même dans d'autres continents ?
Très bien. Il y a seulement 10% des subsahariens qui restent. 90% rentrent chez eux pour créer l'entreprise ou être embauchés. D'autant plus que l'embauche, l'insertion, elle est beaucoup plus facile dans les pays subsahariens qu'au Maroc. Parce que les choses commencent à se corser au Maroc, pour être franc.
Se corser, pourquoi ? Parce que c'est plus difficile pour des gens d'origine étrangère ?
Les subsahariens, on n'a pas eu cette tradition que les subsahariens restent. Depuis toujours, très peu de gens restent. Très peu de gens. C'est-à-dire, quand j'ai dit très peu de lauréats qui restent, la majorité rentrent. Les autres étudiants marocains, ils ne sont pas tous issus de la région du Sud, de la région d'Agadir. Beaucoup d'étudiants viennent de Casa, de Rabat, et tant mieux. Comme ça, leur insertion, ça nous aide à les insérer du moment qu'ils ne sont pas tous issus. Parce que chaque année, on a à peu près 180 lauréats au niveau de toute l'université.
Eh bien, merci infiniment.
Merci beaucoup.
Rara Mehanna, vous êtes professeur de français à l'université du Caire et vous êtes présente ici à ce congrès donc d'Agadir où vous avez fait une communication sur l'autobiographie féminine au Maghreb. Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus ces autobiographies se disent en français ou s'écrivent en français ?
La femme maghrébine a commencé à écrire l'autobiographie depuis très longtemps, mais elle n'osait pas publier cette autobiographie. Elle cachait son identité. Et maintenant, elle écrit de plus en plus en se dévoilant, en présentant son identité, son pseudonyme, sans rien du tout. Et je crois que les autobiographies des femmes sont de plus en plus nombreuses. Mais ce sont surtout des autofictions et des romans à résonance autobiographique et non pas de vraies autobiographies.
Alors, vous parlez des autobiographies des femmes maghrébines, mais le Maghreb, c'est grand. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ouverts à ce genre d'écrit ?
Les trois pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, la production de la littérature française est plus riche en Algérie et au Maroc par rapport à la Tunisie, depuis la naissance de cette écriture.
Et vous qui êtes égyptienne, vous incluez l'Égypte dans cette vue, bien que l'Égypte n'appartienne pas techniquement au Maghreb, ou bien est-ce que vous l'excluez, est-ce que vous pensez que c'est un petit
non,
peu différent?
C'était un peu différent, donc j'étudie seulement le Maghreb, les trois pays du Maghreb, avec une comparaison avec les Français, peut-être dans une autre recherche, avec Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, etc., parce que j'ai découvert que l'écriture autobiographique en Occident et en Orient comporte les mêmes sujets et les mêmes thèmes, que c'est vraiment l'écriture de la condition de la femme en tout lieu et en tout temps.
Alors, à votre avis, quelles sont les raisons principales du choix de cette langue française dans ces autobiographies féminines? Pourquoi écrire en français plutôt qu'écrire en arabe?
Oui, pourquoi écrire en français? On doit remonter après la colonisation, où les écrivains français, en général, et les femmes en particulier, écrivaient une langue de l'ancien colonisateur, parce qu'il n'y avait pas un autre moyen d'expression. Mais petit à petit, c'était un choix, une fascination par la langue française. C'est-à-dire, la réaction des écrivains après l'indépendance a été très différente. Il y en a qui ont cessé d'écrire en posant leur stylo, comme Malik Haddad. Il y a qui sont dirigés vers l'arabe dialectal comme Kateb Yassine. Il y en a qui sont restés porteurs, comme des médiateurs entre deux cultures. Ils ont vu dans l'écriture en français une sorte d'enrichissement. Les femmes ont reçu un enseignement en français. Donc c'est une langue d'expression qui est choisie par fascination et par moyen d'expression. Ils ont choisi ce moyen d'expression pour écrire.
Oui, donc techniquement, en effet, c'est beaucoup plus facile quand on maîtrise la langue d'écrire en français que d'écrire dans une darija, un arabe marocain ou un arabe tunisien ou algérien, alors que l'arabe classique n'est pas à la portée de tout le monde. Au-delà de cette possibilité technique, est-ce que vous pensez que si on écrit en français, on écrit autre chose? Que la langue permet de faire sauter des verrous ou des barrières?
Oui. Pour ces femmes maghrébines écrivaines, elles voient qu'elles peuvent en français dire des choses qu'elles n'osent pas dire en arabe. Et qu'elles peuvent transgresser des tabous, dire des interdits. Et elles donnent des exemples, par exemple, quand elles disent « je vais sortir » en français, elle a le droit de sortir. Mais quand elle dit « anakharga », la même phrase en arabe, elle sent qu'elle commet un péché et qu'elle n'a pas le droit de dire « je vais sortir ». Donc vous voyez, il y a des exemples pareils dans tous les romans de femmes modernes, c'est-à-dire contemporains, et que ça devient, le français devient un moyen de dire ce qu'on n'ose pas dire en arabe.
Et quand vous dites « je vais sortir », bon, là c'est un exemple qui est particulièrement peu exposant. Je veux dire qu'on s'expose pas trop. C'est pas trop risqué de dire je vais sortir. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sortent au niveau de leur vie intime, privée, et qui peuvent s'exprimer en français, alors qu'elles ne s'exprimeraient pas en arabe, sinon à créer le scandale.
Oui, bien sûr. Par exemple, des mots comme mon amour, mon mari, mon fiancé. C'est facile de dire ces termes en français, mais pour elle est timide, elle ne les prononce pas en arabe, elle n'ose pas parfois les prononcer. C'est question de tradition peut-être, mais aussi d'habitude.
Alors, lorsque vous parlez d'autobiographie, est-ce que vous incluez là-dedans des écritures de journaux intimes, par exemple? Ou bien est-ce qu'il s'agit toujours d'une autobiographie qui va revenir sur un passé, sur une vie déjà partiellement écoulée?
Oui, c'est une autobiographie qui revient sur la vie privée de la personne. Je n'ai pas travaillé sur les journaux intimes, je n'ai pas travaillé sur cette écriture, mais je travaille surtout sur des romans à résonance autobiographique qui racontent la vie de la personne et qui ont une ressemblance et similitude avec leur propre vie privée.
Et est-ce que ces autobiographies, elles sont le plus souvent éditées, ou bien est-ce qu'il y en a qui restent à titre de manuscrits perdus dans des tiroirs?
Des romans édités, mais on peut citer par exemple Fatma Ayat Manchoussoura Amrouche, qui a écrit la première autobiographie féminine en Algérie. Elle n'a pas osé la publier, et c'est sa fille Marguerite Taos qui l'a publiée après sa mort. Donc vous voyez qu'au début, la femme n'osait pas. Elle écrivait et mettait dans le tiroir. Maintenant, elle peut publier et même être plus actif et plus productif et écrire avec une sorte de liberté en ne se dévoilant pas, en n'employant pas un pseudonyme, en ne se cachant pas derrière l'écriture, mais ouvertement.
et le lectorat de ces romans, à votre avis? Les personnes qui lisent tout ça, ce sont essentiellement des femmes ou bien c'est mixte?
Non, c'est mixte. C'est mixte et je crois qu'il y a des critiques faites par les hommes sur ces écritures de femmes qui sont nombreuses.
Parce que ça les dérange? Parce que ça choque?
Au contraire, parce que peut-être ils sont compréhensifs et ils soutiennent ces femmes-là. Je crois que aussi il y a des écrivains maghrébins comme Taher Ben Jelloun et d'autres qui ont écrit pour soutenir la femme maghrébine.
Comme si une libération de la femme libérait l'homme du même coup?
Oui, oui, en quelque sorte, c'est juste.
De continuer cette agréable déambulation dans les jardins tout à fait charmants d'Universiapolis. Le temps est extraordinairement clément, comme c'est souvent le cas à Agadir, au Maroc, dans le cadre donc de ce congrès de professeurs de français où nous sommes invités à Universiapolis et où j'ai croisé les fées des mots. Je dis les fées des mots parce que ils ou elles sont deux. Il s'agit de Catherine Guimbaille et de Christian Daré qui, il y a quelque temps, ont fondé cette petite maison d'édition qui a une intention et un profil tout à fait particulier. Alors, Christian Daré, puisque vous êtes l'une des fées, on peut dire, qui s'est pensée sur ce berceau. Dites-nous un petit peu ce que c'est que cette fée des mots et cette petite maison d'édition.
Alors nous, on est basé à La Rochelle, en France, donc, et notre mission, ou l'objectif que l'on s'est fixé, c'est donner ou faire ressentir le plaisir de la lecture aux préadolescents. C'est-à-dire on travaille sur une tranche d'âge qui est de 8 à 13 ans pour faire ressentir le plaisir de la lecture à ces enfants qui considèrent la lecture comme autre chose qu'un loisir ou une distraction. Souvent, ils considèrent que c'est un travail, une corvée scolaire. Pour amener l'enfant à lire le livre jusqu'au bout et être passionné et tenir 100 pages, non seulement on s'appuie sur une bonne histoire et on la réécrit, mais en plus on va personnaliser, c'est-à-dire chaque livre est fabriqué en un seul exemplaire et on va intégrer dans le corps du texte le nom, le prénom, l'âge de l'enfant et un adulte dans son entourage autre que ses parents. Et donc le livre est unique et l'enfant se retrouve dans la situation du héros.
C'est du service à la personne.
Voilà, c'est vraiment...
Service à l'assiette.
C'est pour ça qu'on dit on fait du livre adapté et personnalisé.
Et donc, chaque fois, le livre est destiné à un seul lecteur, même oui. Si ce lecteur peut se multiplier. J'imagine qu'il y a un Laurent pour L'île au trésor, qu'il peut aussi bien y avoir un Ahmed ou un Thierry.
Quand on travaille avec des scolaires, des classes entières, on nous communique la liste des élèves et il va y avoir autant de livres que d'élèves et chaque élève a son livre perso où il va pouvoir, dans son intimité, dans sa tête, se projeter en héros de son propre bouquin.
Et alors, ça peut marcher, une entreprise comme ça, qui fait des livres chaque fois à un seul exemplaire, parce que ça paraît presque utopique.
On ne vous cache pas que ça a été long avant d'être reconnu et admis comme quelque chose, un support pédagogique qui fonctionne. Mais maintenant, oui, on a, comme on dit, l'alignement des planètes.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet alignement des planètes, Catherine Guimbaille et Christian Daré. Longue vie à cette fée des mots et à L'île au trésor, Le capitaine Nemo de 20 minutes sous les mers, Le livre de la jungle et L'Odyssée, puisque ce sont quatre des titres que vous proposez chaque fois à un lecteur personnalisé et différent. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission de La Danse des Mots qui se faisait donc au congrès des professeurs de français à Agadir au Maroc dans La Danse des Mots qui est bien sûr une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI, Véronique Durand, Sophie Janin, Yvan Amar et à demain à Agadir.